Ce podcast vous est proposé par BPI France Université. Retrouvez des centaines de formations pour dirigeants de PME sur bpifrance-université.fr.
L'industrie du futur, une série de podcasts pour décrypter l'industrie du futur et progresser pas à pas dans votre transformation.
Travailler ensemble pour grandir ensemble et pour s'améliorer ensemble. Je pense que c'est ça la clé de notre succès aujourd'hui.
Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts dédiée à l'industrie du futur. Aujourd'hui, je vous propose un partage d'expérience avec un industriel, Jean-Marc Barqui. Jean-Marc, vous êtes le dirigeant de Siloc, l'entreprise que vous avez cofondée en 1996 dans les Hauts-de-France. Vous fournissez des solutions de collage et vos clients travaillent dans les secteurs des arts graphiques et de la PLV, du conditionnement et de l'emballage, de l'étiquetage et de l'habillage, ainsi que de l'assemblage et de l'industrie. Des clients avec qui vous entretenez une relation étroite et dont vous cherchez à anticiper les besoins en matière d'innovation. D'ailleurs, 20% de vos ressources, basées à Salomine dans le Pas-de-Calais, sont dédiées à l'innovation et à la recherche et développement, pour inventer des écoles toujours plus performantes et respectueuses de l'environnement. Vous êtes aussi ambassadeur de la French Fab et vous vous investissez pour changer l'image de l'industrie, en particulier auprès des jeunes. Alors Jean-Marc, pour commencer, peut-être pourriez-vous nous dire ce que représente l'industrie 4.0 pour Siloc, votre entreprise.
Alors l'industrie 4.0 pour Siloc, c'est probablement quelque chose qui est dans notre ADN depuis le départ. On a probablement été 4.0 très tôt, puisqu'on avait mis l'homme au service de la performance. Et notre baseline, c'était l'humain au service de la performance.
D'accord. Et concrètement, qu'est-ce que cela vous a ouvert comme nouvelle possibilité ?
L'intérêt pour une entreprise comme la nôtre, c'est d'essayer de s'associer ou de trouver toutes les compétences possibles et imaginables sans pouvoir les avoir à plein temps, parce qu'on n'en a pas les moyens. Une PME reste une entreprise qui doit être agile et qui n'a pas forcément les possibilités d'avoir les meilleurs dans chaque département. Mais par contre, on peut essayer d'associer les compétences, les meilleures compétences de chaque individu, et ce qu'on ne sait pas faire, on va le chercher à l'extérieur.
Pouvez-vous nous donner des exemples d'actions que vous avez mis en œuvre ou encore de réalisations qui vous semblent emblématiques de votre transition vers l'industrie 4.0 ?
Alors, nos actions et nos réalisations à ce jour, pour arriver ou pour faire cette transition 4.0, elles sont passées par différents stades. Avant, on avait déjà une petite idée qu'il fallait évoluer. On a créé ce que j'ai appelé vulgairement le tabouret.
Le tabouret ? Pouvez-vous nous en dire plus ?
Donc, on a créé un système qui fait qu'on a fait sauter la pyramide de direction, de gouvernance de l'entreprise. Ensuite, on est rentré dans l'accélérateur BPI. Là, on a eu ce fameux 360, qui est quand même une machine extraordinaire pour repositionner un peu la photo que l'on peut avoir sur ce que l'usine est aujourd'hui. Et puis, il y a la mise en place de toutes les actions que l'on a, qui ont découlé de ce 360 et qui nous permettent aujourd'hui de savoir exactement dans quelle direction on va et qui, dans certains cas, confirment ou infirment la décision stratégique qu'on avait prise.
Concrètement, quels sont les bénéfices que vous observez aujourd'hui suite à cette transition vers le 4.0 ?
Le premier bénéfice, le premier résultat du 4.0 et de cette entrée dans le 4.0, c'est d'avoir continué à rassembler les équipes et à les faire travailler ensemble et justement avoir cette unité de groupe, travailler ensemble pour grandir ensemble et pour s'améliorer ensemble. Je pense que c'est ça la clé de notre succès aujourd'hui.
Travailler ensemble, grandir et s'améliorer ensemble, tout cela pose la question de l'organisation, mais aussi de la gestion des compétences, non ? Comment avez-vous géré ces nouveaux défis à l'aune du 4.0 ?
Alors, sur notre organisation et sur les compétences, ça nous a forcément obligés à essayer d'aller chercher un petit peu ailleurs, ou en tout cas à compléter dans nos équipes les compétences que l'on n'avait pas. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est une difficulté de recrutement, notamment dans la région des Hauts-de-France et du Pas-de-Calais. Donc ça, on essaye de le compenser avec de la formation en alternance pour former des équipes directement depuis le plus jeune âge à la sortie de l'école et de les amener là où on voudrait pouvoir les avoir.
Avec le recul, qu'est-ce qui vous a véritablement permis de faire évoluer votre positionnement stratégique ?
Pour faire évoluer le positionnement stratégique d'une entreprise comme Siloc, c'est de ne pas avoir peur de quoi que ce soit en termes d'innovation, en termes de possibilité d'aller chercher des choses soi-disant inaccessibles.
Pouvez-vous nous donner un exemple ?
On a effectivement récemment signé un contrat avec le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, qui a fait de notre projet un des 10 projets clés de l'année 2019. Donc ça veut bien dire que de temps en temps, on peut avoir une vision qui nous permette de pouvoir avancer dans une direction particulière et qui va être totalement disruptif pour l'entreprise.
Siloc est également très engagé en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Qu'est-ce que votre transition vers le 4.0 vous a apporté par rapport à cet engagement? Est-ce un levier actionnable pour entrer dans une véritable démarche d'éco-conception, par exemple?
Alors, l'industrie du 4.0, elle a un énorme intérêt pour l'analyse du cycle de vie, évidemment. Parce que même si on est une industrie traditionnelle, si pour autant on peut parler d'industrie traditionnelle, hein, je pense que n'importe quel industriel a une partie traditionnelle et une partie modernisée, ou 4.0 si on veut l'appeler comme ça, c'est de pouvoir gérer la gestion de nos matières premières et de toutes les matières qui sont utilisées. En fait, le problème qui se pose demain, c'est la raréfaction des matières. Quels que soient les sujets, c'est pas que la raréfaction de l'énergie, c'est la raréfaction des matières premières. Aujourd'hui, on se voit bien pour l'industrie du médicament, pour l'industrie alimentaire. Toutes les industries aujourd'hui essayent de faire en sorte d'utiliser des meilleurs produits, en tout cas de moins gâcher. Pour autant, on le fait pas encore, et je pense que même dans la société de grande consommation, ça ne se fait pas du tout, et on est encore sur de la massification. Et je crois pas que ça soit le sujet. Il vaut mieux que quelqu'un qui achetait une centaine de tonnes pendant l'année 1, l'année N plus 1, il passe à 80 tonnes à isopérimètre. Ça, c'est vertueux, c'est encourager les clients à utiliser des produits de meilleure qualité, et c'est effectivement en plein dans le 4.0, puisque forcément, on va faire la gestion de matières premières et la gestion des ressources de notre planète.
Ce sera donc le mot de la fin. Merci encore Jean-Marc pour ce partage d'expériences très concret.
Merci beaucoup.
Au revoir et à très bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast, L'Industrie du Futur.
Ce podcast vous a été proposé par BPI France Université. Retrouvez des centaines de formations pour dirigeants de PME sur bpifrance-université.fr.